Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. Après la mort de 15 manifestants tués mercredi par l'armée à Khartoum, les protestataires promettent une escalade contre le coup d'État militaire au Soudan. En Tunisie, plusieurs partis politiques demandent la fin des mesures d'exception prises par le président Saïed l'été dernier. Interview dans ce journal de Ella Ben Youssef, vice-présidente du parti Etakatol. L'Autriche va rendre le vaccin contre le Covid obligatoire le 1er février, une première dans l'Union européenne. Le président Macron assure qu'en France, il n'y aura pas de confinement pour les personnes non vaccinées. Invité de Pluriel ce soir à 19h et 23h, le député Sébastien Nadeau affirme que l'État bafoue les droits des personnes migrantes. Il a dirigé une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet. Enfin, des bracelets et des colliers vieux de plus de 140 000 ans découverts dans une grotte près d'Essaouira au Maroc. Il s'agirait des parures les plus anciennes du monde. Au Soudan, les protestataires appellent à une escalade ouverte contre le coup d'État, un appel lancé après la répression meurtrière de mercredi. Au total, 15 civils ont été tués par l'armée ce jour-là lors de la répression d'une manifestation. L'ONU demande aux autorités et aux forces de sécurité du Soudan de faire preuve de retenue et de s'abstenir de commettre d'autres violations des droits de l'homme. La France, très préoccupée par les activités nucléaires iraniennes, à la suite des deux rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, fait état d'une nette augmentation du stock d'uranium hautement enrichi de l'Iran. Pour le Quai d'Orsay, ces rapports établissent un grave manque de coopération de Téhéran avec l'agence. La situation politique en Tunisie, plusieurs partis demandent la fin des mesures exceptionnelles prises par le chef de l'État le 25 juillet dernier. Kais Saied a notamment suspendu le Parlement. Entretien avec la vice-présidente d'Etakatol, Ella Ben Youssef.
Etakatol aujourd'hui et ses partenaires qui ont engagé une action commune de coordination interparti de la famille social-démocrate. Le 25 juillet, pour nous, était une cause juste de par ce qui s'est passé au sein du Parlement et que ça ne pouvait plus continuer et il fallait arrêter l'hémorragie. Malheureusement, après le discours du 22 septembre et après le décret 177 que M. le Président de la République a annoncé, nous ne pouvons pas accepter et nous ne pouvons pas donner de chèque en blanc à un président qui souhaite diriger le pays avec un plein pouvoir qui est contraire aux institutions de l'État, qui est contraire à la démocratie, contraire à la Constitution, même si cette Constitution est pour lui aujourd'hui caduque, mais il y a des fondements de ce pays, le fondement de la démocratie tunisienne, que nous ne pouvons pas ne pas prendre compte. Aujourd'hui, la rue, elle bouge. Aujourd'hui, il y a des sondages qui sont apparus, qui démontrent, après plus de 100 jours de gouvernance, que la popularité du président, elle commence à prendre un coup. Pourquoi ? Parce que il avait tellement cru en lui et en sa manière d'être que, malheureusement, sans stratégie, sans réelle vision politique, nous ne pouvons pas avancer dans un cadre où le pays souffre économiquement et socialement. Le peuple attend des réformes réelles, des réformes radicales au niveau économique et social pour le bien-être de la population. Et ça toucherait après tous les secteurs, le secteur de l'éducation, le secteur de la justice, donc la corruption, qui aujourd'hui, le peuple attend du président que des actions réelles, fortes, puissent être actées.
Cette aujourd'hui, situation, ce gel du Parlement depuis le 25 juillet dernier, a des conséquences aujourd'hui sur le plan économique en Tunisie ?
Tout à fait, a des conséquences sur le plan économique. Au niveau international aujourd'hui, nous savons très bien que nous avons un souci avec le FMI, avec les prêts que le pays a contractés. La roue économique est bloquée et donc nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ça devient vraiment très très dangereux. Mais vraiment très dangereux, que nous continuions à travailler en séparation avec la gouvernance et le gouvernement, parce qu'il existe en Tunisie des partis historiques comme Takatel, aujourd'hui, qui ont une histoire, qui ont une stratégie, qui ont une vision et qui pourront, avec les autres partis dont on continue à travailler, comme Jumhuri, comme Tayyar et aussi Affaire Tunis, à présenter une réelle stratégie pour s'en sortir. Et nous ne pouvons que lui dire, nous devons rappeler le dialogue national et ne pas mettre tous les partis dans le même sac. Nous ne sommes pas NAM, nous ne sommes pas l'ancien régime. Et c'est ces deux entités-là que le président aujourd'hui souhaite anéantir. Nous sommes là, notre histoire et nos actions existent, nos programmes existent. Nous sommes des leaders aujourd'hui aussi honnêtes que Monsieur le Président, les mains propres, mais avec un amour pour notre pays, sans populisme, mais plutôt réel et des actions concrètes pour s'en sortir tous ensemble. Alors oui au dialogue national, oui à la coopération avec le président, qu'il doit rappeler les gens qui ont une stratégie pour notre pays et pour s'en sortir ensemble. Rester chacun dans son coin n'est pas la bonne solution. Aussi, mettre tous les partis politiques dans le même sac et les considérer tous comme des corrompus et tous comme des malfrats, ce n'est pas la bonne stratégie et ça ne va pas aider à ce qu'on avance vers le bon sens.
Vous êtes engagé, Laban Youssef, en faveur des droits des femmes et de l'égalité. Est-ce que vous pouvez nous faire part des mesures que vous souhaiteriez mettre en lumière aujourd'hui ?
Aujourd'hui, la crise économique en Tunisie, et surtout après la Covid-19, touche beaucoup la population féminine, touche les femmes en premier lieu. Les PME et les PMI, qui sont des entreprises qui font travailler beaucoup de femmes, souffrent. Réellement, nous avons vu au niveau mondial, et donc les conséquences directes aussi chez nous, des augmentations des violences faites aux femmes, et toutes les violences économiques, morales, physiques, ne cessent d'augmenter. Les féminicides aussi ne cessent d'augmenter. Ceci est un impact direct de la difficulté économique et sociale que traverse notre pays, mais aussi que traverse le monde suite à la Covid-19. Donc l'inclusion économique aujourd'hui est un secteur très important qui va aider réellement les femmes à s'en sortir, parce que l'indépendance économique pour moi a toujours été la réelle force pour une femme, pour qu'elle puisse être libre, pour qu'elle puisse investir toute seule dans sa vie et décider de ce qu'elle a envie de réaliser pour elle et pour son entourage et de toute façon pour son pays indirectement, puisqu'elle représente plus de la moitié de la population. Les femmes diplômées, on sait très bien qu'elles dépassent les 60% au niveau du pays, mais malheureusement au niveau du chômage, c'est elles qui en souffrent le plus. Donc au niveau du ministère de la Femme, il y a un projet très important aujourd'hui qui s'appelle RIDET. J'espère qu'il apportera ses fruits, mais aussi au niveau de la société civile, au niveau de la sensibilisation de la jeunesse, qui pour moi est le premier ambassadeur, garçons et filles aujourd'hui, sont les premiers ambassadeurs pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour changer les mentalités, pour éduquer nos enfants. Et c'est là où il va falloir faire une réelle réforme au niveau éducatif concernant l'égalité hommes-femmes, concernant la citoyenneté. Et j'espère qu'il y aura beaucoup plus d'hommes qui portent cette cause, parce que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons vaincre cette pandémie santé et pandémie, pour moi, je l'appelle violence aussi.
La vice-présidente d'État Catol, Ella Ben Youssef, au micro de François-Xavier de Calonne. L'Autriche va rendre la vaccination contre le Covid obligatoire à partir du 1er février, une première dans l'Union européenne. Le chancelier Alexander Schallenberg a également annoncé un confinement de la population dès lundi, y compris des personnes vaccinées. Et puis en France, le confinement de personnes non vaccinées contre le Covid-19 n'est pas nécessaire. Et c'est ce qu'a déclaré le président Macron. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Sébastien Nadeau, député de Haute-Garonne, membre du groupe Liberté et Territoire, président de la commission d'enquête sur les migrations de l'Assemblée nationale. Il a publié son rapport et parle d'une maltraitance d'État vis-à-vis des migrants, extraits de cette émission.
C'est un problème systémique, c'est la conclusion à laquelle j'ai pu arriver. Le fait est que La France bafoue l'état de droit concernant le droit auquel peut prétendre un étranger quand il est sur le territoire national. Et si j'estime que c'est un problème systémique, c'est parce que quand on regarde les questions d'hébergement, on se dit il y a un problème régulièrement quand il y a des évacuations de squats ou de camps, ce qui est appelé mise à l'abri n'en est pas une. Et quand on veut appeler le 115 à ce moment-là, qui est le service d'hébergement de l'urgence, parfois on n'a pas de réponse, et puis parfois on a une réponse au bout de la ligne qui nous dit que il n'y aura pas de solution pour ces personnes. Donc quand on regarde du côté de l'hébergement, on se dit il y a problème. Alors si c'était seulement l'hébergement, on pourrait se dire il y a un problème au niveau français global sur le logement, donc qu'il ait des répercussions sur les migrants, c'est somme toute que logique. Mais quand on va regarder sur l'accès à la santé, par exemple, là encore, il y a une mise à l'index, une mise à l'écart des populations migrantes. Et le cas qui peut-être est le plus évocateur, il existe en France, c'est le droit et rien que le droit, ce qu'on appelle l'aide médicale d'État, qui est adressé aux personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire national. Donc pour ces personnes-là, on considère en France, et c'est fort juste, qu'ils doivent pouvoir accéder au système de santé, particulièrement quand ils ont des besoins assez évidents et urgents. Et on a pu constater que un certain nombre de caisses primaires d'assurance maladie sur le territoire national mettaient beaucoup d'obstacles, et des obstacles qui ne sont pas du tout réglementaires, qui sont contraires à la manière dont ils devraient procéder, pour délivrer cette aide médicale d'État. Là aussi, on s'est aperçu que finalement, quand on est en situation irrégulière, on n'a pas le droit d'avoir une rage de dents. Donc on s'est dit, hébergement plus accès aux soins, c'est quelque chose qui questionne. Et puis on continue le cheminement. L'accès à l'administration. Quand on veut demander l'asile, demander un titre de séjour, qui sont deux choses différentes, on peut demander un titre de séjour au titre de l'asile, mais il y a bien d'autres cas de figure qui peuvent se proposer, s'offrir aux personnes étrangères. Une grande majorité des personnes étrangères ne parviennent pas à obtenir un rendez-vous, simplement un rendez-vous pour enclencher une procédure de demande de titre de séjour. On en est là, tout le monde s'est caché derrière le numérique, mais en réalité, le numérique ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a des demandes de rendez-vous qu'on ne peut pas prendre parce que le serveur de la préfecture, ça va être en Loire, ça va être en Haute-Garonne, ça va être dans la Saône, dans toutes sortes de départements, on a fait le constat qu'on ne peut pas prendre de rendez-vous en numérique. Et il a échappé à personne que la plupart des accès à des guichets humains ne sont plus possibles non plus. Donc l'accès à l'administration, ça a l'air de rien, mais enfin, c'est quand même comme ça qu'on peut vivre normalement, correctement, dans un pays comme le nôtre. Et puis on continue, on peut dérouler, il y a l'accès à la justice, alors là c'est peut-être le pompon, je dirais, parce que tout ce qui concerne la justice vis-à-vis du droit des étrangers est dans une situation d'embolie complète, que ce soit les tribunaux administratifs pour des demandes de titre de séjour ou des recours, et que ce soit la Cour nationale du droit d'asile, où on peut se retrouver avec cette situation où il faut finalement étudier plus d'une dizaine de dossiers en 4 heures de temps pour des magistrats qui n'ont pas toujours pris connaissance par avance des dossiers. Donc une vingtaine de minutes pour savoir si quelqu'un peut prétendre à l'asile quand il s'agit de délivrer des informations très intimes sur, par exemple, son homosexualité et dans quelles conditions sociale dans le pays de provenance, cette homosexualité est sanctionnée. Alors ça peut être pénalement, mais ça peut être aussi par la société. Bref, en une vingtaine de minutes, on ne peut pas rendre justice en la matière. Et donc là aussi, la justice, ben, elle met à l'écart les personnes étrangères. Et puis si on continue, et là, je crois que c'est peut-être le plus frappant, c'est sur l'accès à l'éducation et le droit à l'enfance.
Sébastien Nadeau, député de Haute-Garonne, membre du groupe Liberté et Territoire, il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h. Enfin, au Maroc, des archéologues ont découvert des parures vieilles de 142 000 à 150 000 ans. Elles sont de ce fait considérées comme les plus anciennes au monde. Cette découverte a eu lieu près d'Essaouira. Il s'agit de plusieurs colliers et bracelets formés de petits coquillages percés et colorés à l'ocre rouge. Ils ont été trouvés il y a quelques semaines dans la grotte de Bizmoun. Cette édition est terminée. Je vous retrouve à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal, à 19h, invité de Pluriel Sébastien Nadeau. Excellente journée à tous.